RCF. Sur RCF, dans le cadre de votre émission Une fois pour tous, nous allons nous arrêter à la question du sacrement des malades avec le père Sébastien Guizou, pour saisir toute la profondeur de cette question que pose la personne malade dans le monde contemporain. Il est nécessaire de faire le point pour commencer cette série d'émissions sur l'évolution justement de la manière dont était traitée cette personne malade un tout petit peu dans l'histoire et surtout ces 40 dernières années. Ça va nous permettre d'entrer dans cette compréhension et puis de saisir les composantes de la nouvelle sensibilité du monde en la matière dans laquelle l'Église vit et agit. Alors, faisons un peu d'histoire, Sébastien, et regardons ce qui se passait, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce qui se passait jusqu'à la fin du XVIIe, début du XVIIIe.
À cette époque-là, la maladie est uniquement définie du point de vue subjectif, c'est-à-dire qu'on estime la gravité du mal d'après l'état où est réduit le malade, souvent d'ailleurs encore jeune. Et à cette époque, en raison de la durée habituellement brève de la maladie et de l'absence de traitement spécialisé, le malade est soigné à la maison. Il ne connaît pas l'épreuve de la séparation, de la solitude, de l'isolement. La maladie, qui présente une certaine gravité, a d'ailleurs souvent une issue mortelle. Et enfin, la relation du médecin au patient est empreinte de beaucoup d'humanité, d'amitié, de conseils, d'encouragement. Et la plupart des soins ne visent qu'à soulager la souffrance et non à guérir directement de la maladie.
Il faut dire qu'un tournant décisif va être pris au XXe siècle et particulièrement au cours de ces 50 dernières années.
En effet, elles ont été marquées par le développement très important de la médecine, de la chirurgie, de la spécialisation et des centres hospitaliers. Aujourd'hui, le malade est le plus souvent une personne âgée, atteinte d'une maladie chronique qui dure et dont l'évolution est lente. Les progrès réalisés pour établir un diagnostic préventif, de même que pour établir des thérapies, ont fait découvrir de nouvelles maladies. Et d'autre part, elles ont entraîné l'augmentation du nombre de malades. Et d'ailleurs, parfois, cela a même entraîné la psychose chez les personnes saines qui vivent dans la crainte de se découvrir malade. Vous savez, quelquefois, on entend des gens dire « Oh, moi, je ne vais pas chez le médecin parce qu'on va encore me découvrir une maladie. » Hein, voilà, donc c'est quelquefois, ça entraîne des questions hein, chez les personnes.
Cette situation entraîne au plan social, au plan culturel, des conséquences importantes et c'est ce que nous allons regarder. On peut dire que la maladie aujourd'hui est devenue vraiment une préoccupation constante.
Oui, et même des plus angoissantes de l'homme contemporain. Parfois, elle devient un état de vie prolongé et pour certains un état permanent. La maladie n'a plus comme autrefois d'étroite connexion avec la mort. Être malade ne signifie plus forcément courir un danger de mort. Deuxièmement, la nécessité de traitements spécialisés, donc d'une hospitalisation, provoque chez la personne malade des expériences psychologiques douloureuses, comme par exemple la perte de son identité ou encore le poids de sa marginalisation dans la société, le sentiment aussi de l'isolement et de la solitude, la sensation d'être dans un état de dépendance, d'être presque une tierce personne dont le sort est décidé suite à un dialogue furtif entre la famille et le médecin.
Et justement, on peut dire que la relation médecin-malade a aussi changé.
Oui, elle a subi des transformations considérables. Le patient se trouve devant des personnes inconnues qui lui font subir une série d'examens dont la raison et les résultats lui échappent bien souvent et auxquels il est entièrement soumis.
Et cette nouvelle situation, ce paysage que vous venez de décrire très rapidement, ce changement de perspective, on peut dire, d'attitude, de rapport dans la société contemporaine par rapport à la maladie, eh bien, c'est un peu comme un défi pour l'Église.
En effet, elle a profondément remis en question par ces changements importants. Elle a réexaminé les sources bibliques et liturgiques qui sont à sa disposition. Et l'Église a réussi à aller plus loin. Elle a laissé de côté la pieuse résignation, on pourrait dire, et l'acceptation face à la maladie. Autrefois, On peut d'ailleurs citer les motifs qui étaient avancés pour faire accepter patiemment la maladie. Alors c'est un peu, vous allez le voir, c'est un peu étonnant pour nous aujourd'hui, mais c'est intéressant quand même de l'entendre. On disait aux patients autrefois, la maladie est une conséquence du péché originel et un juste châtiment pour nos péchés. Aujourd'hui, il est dur d'entendre ça quand même. La maladie, supportée avec résignation, libère des peines du purgatoire et nous ouvre le paradis. Oula. La maladie nous apprend à nous détacher de la terre et des joies sensibles. La maladie, endurée patiemment, peut même entraîner certains avantages matériels. La maladie et la souffrance nous unissent au Christ sur la croix et ont donc une fécondité surnaturelle. Alors vous voyez, ce genre d'argument et de présentation de la maladie peut nous faire bondir un petit peu aujourd'hui. Tout cela a bien évolué.
Et dans ce contexte, l'Église a fait sien le devoir de lutter contre la maladie.
Sans toutefois d'ailleurs verser dans une vision radicalement sécularisée, elle a aussi dépassé le danger d'isolement du malade à l'intérieur de l'Église elle-même. La maladie n'est plus considérée comme un état de vie et de sanctification animé par une spiritualité propre, parce que l'Église a compris que c'est tout entière qu'elle est appelée à vivre la logique de la croix et à s'y soumettre.
Et d'ailleurs, c'est ce qu'on trouve dans le rituel pour les malades qui évoque justement ce monde affronté à la maladie.
Je voudrais citer ici le rituel qui s'appelle « Sacrement » au pluriel pour les malades, pastoral et célébration, un rituel très riche. Je cite tout d'abord les numéros 1 à 3 qui expliquent ce qu'est la maladie dans un monde, dans le monde d'aujourd'hui. L'existence de la souffrance est une des grandes questions posées à la conscience des hommes. Elle est parfois perçue comme un scandale. Cette souffrance revêt des formes diverses. La maladie n'est que l'une de ces formes. Mais surtout, si elle est grave, elle prend un relief particulier. Elle rappelle que la condition mortelle est une dimension de la vie humaine. Mais le malade ne doit pas être considéré comme un être à part, car il est dans le plan de Dieu que l'homme lutte de toutes ses forces contre la maladie, qu'il poursuive ce bien qu'est la santé, afin de pouvoir accomplir intégralement sa tâche dans la société et dans l'Église. La lutte contre la maladie n'appartient pas aux seuls malades. Ceux qui sont au service des malades doivent étudier ce qui peut être fait, expérimenter et tenter pour soulager leur corps et leurs esprits. Les initiatives de la science et de la technique au service de la vie, les efforts et la compétence déployés au bénéfice des malades, l'Église les considère comme une certaine participation au ministère du Christ soulageant les malades, que ces efforts soient ou non le fait de chrétiens.
Et on va continuer de regarder ce qu'on trouve dans ce document autour justement du chrétien avec le Christ face à la maladie.
Atteint par la maladie, le chrétien partage la condition humaine. Avec la lumière de la foi, il se sait encore aimé par le Christ. Celui-ci, durant sa vie mortelle, a si souvent visité et guéri les malades. Il a refusé qu'on les tienne à l'écart. Il est lui-même passé par l'épreuve de la souffrance, annonçant aux hommes jusque sur la croix le vrai visage de Dieu, un Dieu qui n'est pas lointain, mais qui est devenu en tout solidaire de l'homme, sauf du péché. Puisqu'il a souffert lui-même, il est en mesure de venir en aide à ceux qui sont éprouvés, dit la lettre aux Hébreux, au chapitre 2, verset 18. Ainsi, membre du corps du Christ, le chrétien qui lutte contre la souffrance et la maladie peut vivre mystérieusement une proximité spéciale avec le Christ. Dans sa foi au Dieu de Jésus-Christ, le chrétien puise une lumière pour sa vie, affronté à la souffrance. Il trouve aussi plus de courage pour la supporter et pour lui faire face en communion avec le Christ. Mais cette foi est souvent affrontée à de nombreuses questions. Elle a besoin d'être éclairée et fortifiée.
Et nous continuons de regarder ce que nous trouvons dans ce rituel, cette réflexion pour le sacrement des malades, qui dit justement la manière dont l'Église aujourd'hui envisage ce rapport à la maladie et aux personnes malades.
Si la foi révèle un certain lien entre la souffrance et la condition pécheresse de l'humanité, on ne peut, sauf exception, considérer la maladie comme une punition infligée à chacun pour ses propres péchés. Vous voyez, c'est très clair dans la vision de l'Église aujourd'hui. On ne peut considérer la maladie comme une punition infligée à chacun pour ses propres péchés. La foi du chrétien malade le conduira à assumer sa situation en luttant pour sauvegarder sa santé et remplir ses responsabilités. Mais il portera aussi un témoignage lié à son état. En continuant par exemple à aimer au cœur de l'épreuve, il se maintiendra sur les traces de Jésus-Christ et participera avec lui au salut du monde. En poursuivant aussi ses tâches et ses activités sans démission, il manifestera que toute espérance doit être tendue vers le jour où la création tout entière, enfin libérée, connaîtra aussi la gloire des enfants de Dieu. Et aussi, en vivant l'espérance, il manifestera d'une façon plus significative que nos épreuves du moment sont légères par rapport au poids extraordinaire de gloire éternelle qu'elles nous préparent, comme le dit la deuxième lettre de saint Paul aux Corinthiens au chapitre 4, verset 17. Ainsi, tout chrétien est appelé à vivre son existence quotidienne en intime union avec Jésus-Christ. C'est encore vrai du chrétien malade. Affecté sans doute par la maladie, sa vie ne se réduit pas à être malade. Comme tout fidèle, il cherchera donc à imiter Jésus-Christ dans ses diverses activités. Il saura par exemple maintenir et développer si possible sa vie de relations et d'échanges. Et dans les moments les plus pénibles où il est affronté à ces rudes réalités que sont la maladie, la souffrance et la mort, il saura s'unir à Jésus-Christ dans sa passion. Pour le Christ, les souffrances n'étaient pas une fin en soi. Il en fit le chemin qui mène à la vie, grâce à son amour pour nous et pour son Père. Ainsi peuvent-elles devenir aussi, pour le chrétien malade, une voie vers la vie, en union avec Jésus-Christ, qui, aujourd'hui encore, souffre et lutte lorsqu'un d'entre nous, membre de son corps, est durement touché par la souffrance.
Que nos regards d'amour, nos mains et notre cœur révèlent la mission, Seigneur, que tu nous as donnée. Révèle la mission, Seigneur, que tu nous as donnée.
Prendre soin comme des veilleurs qui écoutent et accompagnent, qui apaisent et qui soulagent tant de mots, de peurs et de pleurs.
S'approcher de toi dans l'angoisse et dans le doute, sans savoir où va la route, sans savoir ce qu'il adviendra.
Soin, agir en témoin dans l'esprit de l'Évangile, secourir les plus fragiles comme a fait le Samaritain.
Que nos regards d'amour, nos mains et notre cœur révèlent la mission, Seigneur, que tu nous as donnée. Révèle la mission, Seigneur.
Prendre soin dans tes pas, Jésus, ta parole nous éclaire dans la nuit sur cette terre.
C'est pour nous que tu es venu.
Seigneur, que tu nous as.
Sur RCF, votre émission Une fois pour tous, et nous parlons du sacrement des malades avec le Père Sébastien Guizou. Nous allons maintenant regarder justement ce que dit l'Écriture et la Bible concernant les malades et la maladie. Et on pourrait dire, pour commencer, Sébastien, que finalement la Bible ne semble pas s'intéresser à la maladie comme telle.
Elle aborde en fait dans la mesure où celle-ci pose des questions à l'expérience de foi du peuple de Dieu, comme celle-ci par exemple. Comment expliquer la maladie à l'intérieur de l'histoire du salut? Comment la vivre à la lumière de la foi? L'analyse de ce que dit l'Écriture sainte est rendue difficile par le contexte, on le sait, cosmologique et anthropologique, aujourd'hui dépassé en de nombreux points. On a écrit les textes de la Bible à partir de ce que l'on connaissait à l'époque. C'était dans ce contexte que la foi biblique s'exprimait. Mais à la lumière du Christ, il est possible aujourd'hui de recueillir et de déchiffrer le message issu de l'expérience de la foi.
Et c'est ce que nous allons faire en regardant quelques textes de l'Écriture avec un premier aspect. Le Christ qui guérit les malades annonce dans sa personne la présence du royaume, et on va trouver des signes de guérison dans l'Ancien Testament qui annoncent la venue du Messie.
Oui, l'attente prophétique trouve dans le Christ sa pleine réalisation, et le signe des guérisons annonçait déjà la venue du Messie. On peut lire par exemple dans le livre du prophète Isaïe, au chapitre 35, versets 1 à 6, ces paroles. Le désert et la terre de la soif, qu'ils se réjouissent, le pays aride, qu'il exulte et fleurisse, qu'il se couvre de fleurs des champs, qu'il exulte et crie de joie. La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et de Tsaron. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent. Dites aux gens qui s'affolent, prenez courage, ne craignez pas, voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles et les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. L'eau jaillira dans le désert, des torrents dans les terres arides.
Voilà un premier aspect, le signe des guérisons qui annonce la venue du Messie dans Isaïe. Alors si on en vient à l'Évangile, on va dire que les miracles de guérison dans l'Évangile sont aussi en lien avec le pardon des péchés.
Les miracles de guérison sont le signe que le royaume de Dieu est déjà là, que la maladie, le handicap peut être vaincu, que la victoire de Dieu sur le péché et sur ses conséquences est déjà commencée. Les guérisons, en effet, sont mises en relation avec le pardon des péchés. Je donnais un seul exemple dans l'Évangile selon saint Marc, au chapitre 2, versets 1 à 12. Jésus était de retour à Capharnaüm, et la nouvelle se répandit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place même devant la porte. Il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé porté par quatre hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui, font une ouverture et descendent le brancard sur lequel il était couché. Il était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait dans l'assistance quelques scribes qui raisonnaient en eux-mêmes, « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés sinon Dieu seul ?» Saisissant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'il faisait, Jésus leur dit « Pourquoi tenir de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile? De dire aux paralysés « Tes péchés sont pardonnés » ou bien de dire « Lève-toi, prends ton brancard et marche ». Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre, je te l'ordonne, dit-il aux paralysés, « Lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi ». L'homme se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient stupéfaits et rendaient gloire à Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil ».
Alors vous l'évoquiez tout à l'heure, on avait une espèce de conception autrefois de la maladie, conséquence du péché originel, d'un juste châtiment des personnes. Eh bien on voit que dans l'Évangile, le Christ écarte la conception éthique qui attribue à une faute l'origine de la maladie.
Oui, l'origine aussi du handicap auquel on peut associer bien sûr la maladie. C'est le mystère de l'aveugle né. Vous connaissez cet évangile dans le chapitre 9 de Saint Jean. Je cite simplement les versets 2 et 3. Les disciples de Jésus lui demandèrent « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit « Ni lui ni ses parents n'ont péché, mais c'est afin que soient manifestées en lui les œuvres de Dieu. » Vous voyez, dans ces versets, on voit que Jésus exclut donc d'une part explicitement le rapport de cause à effet entre le péché et la maladie. On peut citer ici le verset 34 où les pharisiens répondent à cet homme qui est aveugle « De naissance, tu n'es que péché et tu nous fais la leçon. » Et ils le jetèrent dehors. Donc Jésus exclut cette conception-là. Et d'autre part, il se montre intéressé, par contre, à la signification de la maladie dans le plan de Dieu. Voilà. « Ni lui, ni ses parents n'ont péché, dit Jésus, mais l'action de Dieu devait se manifester en lui. » On voit donc ici, dans ce texte-là de la guérison de l'aveugle-né, que celui qui est porteur de ce handicap est impuissant à se sauver seul. Il devient en fait le lieu où se manifestent les œuvres de Dieu, où se manifeste le Christ, qui est l'unique sauveur de l'homme.
Et ce qu'a vécu le Christ, ce qu'a manifesté, ce qu'a dit le Christ, va se prolonger dans les premières communautés chrétiennes.
L'expérience du Christ devient l'expérience de l'Église qui prolonge les gestes de guérison de Jésus. On peut lire, par exemple, en Matthieu, chapitre 10, versets 7 à 8, Jésus dit « Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. » Alors évidemment, dans la suite de cet envoi de Jésus, de cet envoi des disciples par Jésus, on peut lire aussi dans les Actes des apôtres ce que Pierre aussi va réaliser au nom de Jésus, Actes chapitre 9, versets 32 à 42. « Il arriva que Pierre, parcourant tout le pays, descendit jusqu'à Lod et visita les fidèles de cette ville. Il y trouva un certain Énéas, alité depuis 8 ans, parce qu'il était paralysé. Pierre lui dit « « Énéas, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et fais ton lit toi-même. » Et aussitôt il se leva. Tous les habitants de Lod et de la plaine de Saron purent voir cet homme, et ils se convertirent au Seigneur. Il y avait aussi à Jaffa une femme disciple du Seigneur appelée Tabitha. Ce nom veut dire gazelle. Toute sa vie se passait en bonnes actions et en aumônes. Or, il arriva en ces jours-là qu'elle tomba malade et qu'elle mourut. Après la toilette funèbre, on la déposa dans la chambre du haut. Comme Lod est près de Jaffa, les disciples, apprenant que Pierre s'y trouvait, lui envoyèrent 2 hommes avec cet appel. « Viens chez nous sans tarder. » Pierre se mit en route avec eux. À son arrivée, on le fit monter à la chambre du haut, où il trouva toutes les veuves en larmes. Elles lui montraient les tuniques et les manteaux que Tabitha faisait quand elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, puis il se tourna vers le corps et il dit « Tabitha, lève-toi ». Elle ouvrit les yeux et voyant Pierre, elle se redressa et s'assit. Pierre, lui donnant la main, la fit lever, puis il appela les fidèles et les veuves et la leur présenta vivante. Toute la ville de Jaffa en fut informée et beaucoup crurent au Seigneur. Vous voyez, dans ce texte-là, on retrouve des récits de guérison faits par Jésus. Voilà, Pierre, à la suite de Jésus, opère aussi des guérisons.
Et ces guérisons, cette vie en Église à la suite du Christ, eh bien, affirme la présence du royaume, met en place, cherche à mettre en évidence sa force de libération.
Saint Paul, d'ailleurs, a présenté le charisme de guérison comme un service pour l'édification de la communauté. On peut lire dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9, « Un autre reçoit dans l'esprit le don de la foi, un autre encore des pouvoirs de guérison dans l'unique esprit. » Et dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, toujours au verset 26-27, si un membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance. Si un membre est à l'honneur, tous partagent sa joie. Or, vous êtes le corps du Christ, et chacun pour votre part, vous êtes les membres de ce corps. On peut lire aussi dans la lettre aux Colossiens, au chapitre 1, verset 24, Saint Paul qui dit « Je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous, car ce qu'il reste à souffrir des épreuves du Christ, je l'accomplis dans ma propre chair pour son corps qui est l'Église. » Voilà, ce texte deviendra celui à la lumière duquel la tradition chrétienne a interprété la souffrance, y compris celle de la maladie. Et puis enfin, dernier texte, celui de 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 5 à 6. De même que nous avons largement part aux souffrances du Christ, dit saint Paul, de même par le Christ nous sommes largement réconfortés. Quand nous sommes dans la détresse, c'est pour que vous obteniez le réconfort du salut. Quand nous sommes réconfortés, c'est encore que pour que vous obteniez le réconfort, et cela vous permet de supporter avec persévérance les mêmes souffrances que nous. Vous voyez, ce texte reprend le thème du Fils de l'homme souffrant. Ces deux derniers textes-là nous mettent vraiment en face de la passion du Christ, à la lumière de laquelle l'apôtre relie sa propre souffrance.
Et nous allons continuer de parcourir lors de la prochaine émission ces textes bibliques qui parlent du rapport au malade, à la maladie, et nous allons nous arrêter sur un texte important qui est un peu comme un point de référence de la pratique sacramentelle de l'onction. Merci beaucoup et à très bientôt.